voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre Hervé Temim. Ce soir, l'affaire Agnès Leroux, Maurice Agnelet.
Bonsoir Hervé Temim.
Bonsoir.
On l'a dit, vous avez comme clients, entre autres, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Stéphane Delajoux, Roman Polanski, Alain Felou. Mon souhait est de revenir sur une affaire que je trouve particulièrement passionnante. On ne la cite pas en premier lorsque l'on parle de vous. Elle a pourtant occupé les médias durant des années et des années. Avant d'aborder cette affaire, une question. Les affaires les plus marquantes pour vous sont-elles les plus connues du public ? Sont-elles les plus médiatiques ?
Certainement pas. Certainement pas, d'abord parce que, si vous voulez, j'ai eu la chance d'avoir des débuts dans le métier qui sont incroyables, servis par des circonstances heureuses, des commissions d'office. Donc, si vous voulez, moi, au début, je voulais entamer une carrière d'avocat pénaliste classique, faire ce qu'ont fait toute leur vie Jean-Yves Liénard ou Éric Dupond-Moretti, Jean-Louis Pelletier, Pollack, Henri Leclerc. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé à 21 ans, et à 25 ans, j'avais plaidé une cinquantaine de fois aux assises, sans avoir le sentiment à l'époque que c'était assez incroyable, mais ça l'était. Et donc, je dirais que jusqu'à 32, 33 ans, j'avais une activité de pénaliste totalement classique et que j'ai eu des affaires très marquantes, totalement inconnues du grand public. Et qu'après, j'ai continué à avoir des affaires passionnantes, inconnues aussi du grand public. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a une telle médiatisation, comme on le disait, qu'il y a moins de choses qui passent au travers de l'information, d'au moins des médias, des réseaux sociaux. Mais à l'époque où jusqu'à 40 ans, pendant 20 ans, parfois, on était absolument stupéfait avec la génération de pénalistes qui a été la mienne, parce que il y avait des affaires passionnantes où personne n'était au courant, des affaires très relayées médiatiquement. Enfin, c'était pas le même relais. En tout cas, c'était pas le même relais à l'égard des avocats, des affaires très relayées qui n'étaient pas vraiment les plus passionnantes, nous semblait-il.
Là, je souhaiterais parler avec vous d'une affaire passionnante et médiatique, qui est l'affaire Leroux-Agnelet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette affaire, pour ceux qui l'auraient oubliée ?
Cette affaire, c'est la disparition à la Toussaint 77 d'Agnès Leroux, qui était une des héritières du Palais de la Méditerranée, casino, très prestigieux et important à l'époque, à Nice. Et on n'a jamais retrouvé son corps, et sa mère, Renée Leroux, a voué sa vie à essayer de retrouver le corps de sa fille et de connaître la vérité.
Comment vous, Hervé Temim, vous êtes arrivé dans cette affaire et quel rôle vous y avez joué ?
Je suis arrivé dans cette affaire d'une manière extrêmement étonnante pour moi, puisqu'un jour... de 2006, je crois. Georges Kiegeman m'a appelé. Je le connaissais à peine. Et il m'a dit que il avait défendu la famille Leroux, donc la mère, le frère Jean-Charles Leroux et ses sœurs. Partie civile dans un procès aux assises à Nice, qu'Agnelet avait été acquitté, qui considérait que c'était absolument injuste, qui avait eu un appel du parquet, il me demandait de prendre la suite.
Vous avez hésité ?
J'ai pas hésité, j'ai commencé par lui dire non. Je lui ai dit, écoute Georges, parce que vous savez, c'est pour ça que j'ai commencé sur mon parcours initial, j'ai une culture absolue de pénaliste, on ne peut plus classique, et j'avais quasiment jamais été, une fois, dans des circonstances très particulières, jamais été partie civile aux assises. J'ai violé une règle, il faudra que je vous parle de Thierry Lévy par rapport à l'affaire Agnelet, parce que lui n'a jamais été partie civile. Et je commençais par lui dire, Georges, je suis très touché, mais Je vais aller demander la condamnation en appel d'un type qui a été acquitté en première instance aux assises. Je le sens pas. Il me dit, écoute, je te comprends.
Ce type étant Maurice Agnolet.
Ce type étant Maurice Agnolet.
L'ex-amant de la fille.
L'ex-amant de la fille, donc de René Leroux, Agnès Leroux, disparue. Il me dit, écoute, je te comprends. Il était fatigué et il avait un mauvais souvenir du procès. Et alors, il faut reconnaître que je ne supportais pas la confrontation avec Agnolet et l'idée de repasser un mois en sa compagnie n'était peut-être pas ce qui l'attirait le plus dans l'existence. Donc, je lui dis, tu vas trouver ça. Il me dit, oui, mais je pensais à toi. Je lui dis, écoute, Georges, je suis très touché. Mais... Et là, hasard de l'existence, je suis dans un procès financier, pénal financier à Paris, et je croise la journaliste Pascale Robert-Diard, qu'à l'époque je connaissais à peine. Je la connaissais, bien sûr, mais pas personnellement. Et là, je la croise, et elle me dit, alors, il paraît que vous allez prendre l'affaire Leroux. Et je vous promets, je tilte même pas, parce que pour moi l'affaire c'était Agnolet, je sais pas, l'affaire Leroux. Elle me dit, bah oui, l'affaire Agnolet. Mais je dis, ben non, mais pourquoi? Elle me dit, ah bon? Je pense que Georges avait dû lui dire, Georges Kegeman. Et là, je lui dis, écoutez, oui, mais j'ai dit non. Elle me dit, écoutez, je comprends vos raisons, mais si vous deviez faire une exception, peut-être que ce serait cette affaire. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, écoutez, vous avez sans doute lu mes chroniques. Je lui dis, oui, je m'en souviens très bien. Mais, vous savez, Georges Kegeman, il avait une formule extraordinaire, Georges, au procès. Georges Kegeman avait dit que cette affaire, c'était un outreau à l'envers. C'est ce que je pense, totalement, aujourd'hui. Et, finalement, pour des raisons qui sont liées à ça, plus des raisons très personnelles qui sont pas racontables, j'ai reçu Jean-Charles Leroux, je lui ai fixé mes conditions. Le petit frère d'Agnès Leroux, qui était le très proche de sa sœur au moment des faits, et très, très, très impliqué, ses sœurs aussi, mais c'est lui qui était, si j'ose dire, à la manœuvre opérationnelle dans la défense de la famille pendant les procès et les procédures. Et Jean-Charles Leroux, avec qui j'ai eu un rapport de distance, mais de sympathie assez immédiat, s'il avait été un type normal, au vu des conditions qui étaient les miennes, il aurait dû me dire, écoutez, merci maître, c'est adorable, mais bon, je vais chercher un autre avocat. Puis finalement, il a accepté mes conditions, mais ce n'était pas nécessairement une stratégie de défense, justement, ça a été perçu comme tel après. Non, c'était ma façon d'être, qui est différente de celle de Georges, d'ailleurs, pour qui j'ai l'admiration que je vous ai dite, et on y est allé comme ça.
Est-ce que vous avez rencontré René Leroux,
bien
la
sûr.
Mère d'Agnès Leroux, donc disparue, dont on n'a jamais retrouvé le corps? Quelle femme est-elle, René Leroux?
Écoutez, d'abord, c'est une femme qui avait une apparence de femme forte, et enfin, qui était décrite et perçue comme telle. Mais d'abord, j'ai appris que quand son mari était mort, en fait, elle avait été mannequin à Paris. Elle n'était absolument pas apte ni disposée à prendre la direction d'un établissement comme celui du Palais de la Méditerranée. Et après, ben, j'ai découvert, pendant les temps où je l'ai fréquenté, une femme âgée, fragilisée par tant de souffrances et tant de temps qui avait passé, très très attachante, très très vivante, très brisée, c'est ce que j'en ai perçu, et qui a eu... Je vais peut-être un peu trop vite, mais qui a eu une réaction que j'oublierai jamais, puisque au procès où j'ai pris la partie civile, enfin la défense de la partie civile, à Aix-en-Provence, après un délibéré très court et contre mon attente, l'accusé a été, Maurice Agnolet a été condamné à 20 ans de réclusion. C'était pour René Leroux l'aboutissement du combat d'une vie. Et ça aurait pu être, sinon une satisfaction, du moins un soulagement. Et elle a eu une réaction que j'oublierai jamais. Elle est venue vers moi, elle m'a enlacé, elle m'a remercié, mais ses seuls et premiers mots ont été « Vous savez, maître, ça ne me dit toujours pas où est le corps de ma fille. » Elle n'a pas prononcé un mot de satisfaction devant la condamnation de Maurice Agnelet. Elle était convaincue qu'il était coupable, mais il n'avait pas parlé et elle ne savait toujours pas où était le corps de sa fille.
Est-ce qu'un avocat a le droit à l'émotion ?
Ah oui, bien sûr. Bon, alors là, je vais vous dire, si jamais il n'avait pas le droit à l'émotion, ça fait longtemps que je serais radié. Parce que moi-même, j'ai réussi à pas en être victime avec vous, mais moi, je dois dire que je cède beaucoup trop souvent à l'émotion. Il m'est arrivé de pleurer hein, à la cour d'assises. C'est ni à préconiser, ni à rechercher, c'est même à proscrire. Mais vous savez, il y a des moments d'une intensité inouïe.
Justement, quels ont été les moments forts, intenses de l'affaire Leroux-Agnelet ?
Écoutez, il y a eu un troisième procès, parce que l'avocat de Maurice Agnelet, qui est un très 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 bon procédurier, un très bon avocat, François Saint-Pierre a obtenu la condamnation de la France devant la Cour européenne. Il a obtenu qu'il y ait un nouveau procès. Ce troisième procès a eu lieu à Rennes, présidé par M. Dary, un grand président que je ne connaissais pas, très grand président de Cour d'assises. Et on arrivait près de 40 ans après les faits, à Rennes. C'était loin de Nice, du Palais de la Méditerranée, de, vous voyez, Aix-en-Provence. C'était... Avec un Maurice Agnelet qui paraissait vieilli, une condamnation de la France, des témoins dont on ne savait pas s'ils viendraient. Et ce procès a été absolument inouï. Et ce qui m'a d'ailleurs permis d'avoir une grande réflexion sur la mémoire. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Les épisodes les plus forts qu'on a vécus, même il y a 50 ans pour moi, on s'en souvient comme s'ils venaient de se produire. Et là, ce procès a été incroyable. Il a été, à mon avis, hein, mon humble avis, un naufrage total pour la défense d'Agnelet. Avant même que se produise, alors là, ce que personnellement j'ai jamais vu, ni dans un autre procès, ni jamais entendu dire d'ailleurs dans un autre procès, ni lu dans un livre, ni vu au cinéma, c'est-à-dire la présence du fils de Maurice Agnelet, Guillaume, qui avait été le plus ardent défenseur de son père et qui est venu révéler la vérité devant la cour d'assises face à son père, qui avait été incarcéré à la suite de sa déposition, face à sa mère qu'on n'avait jamais entendue, mais qui était là en visioconférence, et même face à son frère, dans une confrontation à quatre que j'aurais voulu éviter, et qui a offert un spectacle, mais pas au sens du tout d'une mise en scène, qui a offert quelque chose d'absolument inouï, et d'autant plus incroyable que c'était simple, comme la vérité, sans effet. Avec donc ce fils qui a défendu toute sa vie son père, qui est venu l'accuser. Accuser indirectement sa mère de l'avoir couvert, puis très directement. Et la confrontation avec son frère, évidemment, pour qui c'était une épreuve terrible, qui défendait son père. Et notamment un moment où le président interroge le frère de Guillaume et lui dit « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il répond « Je ne me souviens pas. Nous n'avons pas les mêmes souvenirs, pardon. » Et Guillaume dit « J'aimerais bien ne pas me souvenir. »
Je vais vous poser une question qu'on pose souvent aux acteurs. Avec une telle affaire, quand on rentre chez soi, est-ce qu'on ferme définitivement la porte ?
Pas du tout, on la ferme pas. Il y a, je vais vous dire, c'est d'ailleurs le côté merveilleux de notre métier, mais tellement envahissant, on ferme jamais la porte. On ferme jamais la porte. On ferme jamais la porte. Non,
Vos confrères, ou du moins certains de vos confrères, vous décrivent comme un roc. Est-ce que c'est vrai ?
Un roc ?
Un roc. Vous répondez donc à votre façon.
J'adorerais, oui. Je vois même pas quoi. Mais tant mieux, oui.
Est-ce que...
Non, je vais vous dire, je suis un compétiteur. Oui, je suis tout sauf un roc, mais dans l'arène, à quand je crois quelque chose, il faut me marcher dessus pour que je perde, oui.
Vous vouliez nous parler de Thierry Lévy.
Oui. Ah oui, parce que, vous savez, je déjeunais souvent avec Thierry Lévy. Et lui, il partait, après il rentrait à son bureau à pied. Et un jour, je venais de déjeuner avec Thierry Lévy, et Pascal Robert-Diard, qui a écrit un bouquin sur ce troisième procès, qui s'appelle « La déposition », qui pour moi est pas loin d'être un chef-d'œuvre, Pascal Robert-Diard a publié dans Le Monde un entrefilet comme quoi j'étais le nouvel avocat de la famille Leroux, partie civile dans ce procès. Thierry Lévy a acheté Le Monde, il est à peine arrivé à son bureau qui m'a appelé. Me disant, mais c'est pas possible, vous êtes un horrible cachotier, vous m'avez pas dit ça, c'est une honte, vous avez accepté d'être partie civile, lui il était jamais, j'avais pas osé lui dire que j'avais accepté d'être partie civile.
Alors vous m'avez répondu à votre manière, vous vivez pas comme un roc, est-ce que vous êtes atteint par l'ingratitude des clients? Parce que je suppose que certains clients se montrent ingrats.
Écoutez, alors un roc par rapport à l'ingratitude, je crois que je le suis. Je peux pas vous demander de révéler vos sources, j'aurais adoré savoir qui a pu vous dire que j'étais un roc. Ça m'aurait beaucoup amusé. Mais bon, non, je vais vous dire, j'ai découvert l'ingratitude, comment vous dire, vous m'auriez connu à 21 ans, j'étais le même dans ma tête et dans mon cœur, mais bon, physique, heureusement, très légèrement différent, mais j'étais d'une naïveté. D'ailleurs, je crois l'être encore un peu trop, mais j'étais une naïveté incroyable, quoi, incroyable. Il m'est quand même arrivé très régulièrement d'obtenir l'arlax ou l'acquittement d'accusés pour lesquels j'étais évidemment pas payé. Il en était même pas question. Je parle même pas de commission d'office, hein. Sans que même jamais il me passe un coup de fil, sans que même jamais il ne m'écrive un mot, sans que même jamais il n'ait un remerciement à mon égard, puisqu'il était le lot de tous, hein, pas seulement moi. Donc je me suis blindé, je me suis pris des baffes, mais comme vous pouvez pas imaginer, un jour, on a eu un acquittement incroyable avec Francis Spinner. Tellement incroyable que le type, donc il est acquitté, donc il sort de prison. J'ai un jour un type qui était tellement innocent, justement, je croyais à son innocence, il est acquitté, il me dit « mais je sors quand de prison ?» Il avait compris qu'il n'était pas condamné, il n'avait pas compris qu'il était libéré. Bon bref, mais un jour, on a un acquittement pour un type. Mais c'est incroyable. C'est moi qui avais appelé Spinner dans cette affaire parce que le président était redoutable et qu'il aimait beaucoup ce président et c'était réciproque. Et d'ailleurs, il avait été excellent, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le type était tellement considéré comme innocent par ses co-détenus que, vous savez, à l'époque, j'avais beaucoup, beaucoup de détenus. On faisait avec Thierry Herzog, Pierre Haïk, la tournée des détenus, de nos détenus. On allait les voir souvent, on aimait ça d'ailleurs. Et là, je vais voir, je sais pas, une dizaine de détenus, j'étais à 3e division à Fresnes, et tous me demandent des nouvelles d'un tel. Mais vous avez des nouvelles d'un tel? Ben, je lui dis, ben, il a été acquitté, il est dehors. Il se marrait, il le croyait même pas. Ce type, si vous voulez, il n'avait plus de nouvelles, il pensait qu'il gardait la cellule depuis 8 jours. Personne n'avait imaginé qu'il était sorti. Et Francis et moi, on faisait semblant de se suspecter d'être celui qu'il avait appelé et qui serait venu. Parce qu'évidemment, dès son acquittement, il nous embrassait. C'était un vendredi. Demain après-midi, samedi, je suis chez vous, maître. Tu parles, il nous a même jamais dit. Donc, et je sais pas, là, c'était peut-être 85, un truc comme ça. J'avais 27 ans, 28 ans. Et j'en avais déjà vécu un nombre incalculable. Donc, si vous voulez, je n'attends pas de gratitude. Je suis un roc face à l'ingratitude. Oui, ça ne m'atteint plus. Ça m'a atteint. En revanche, on vit l'inverse. On vit des moments de gratitude inouïe. Et on noue des relations extraordinaires avec les gens, sans avoir besoin de se voir. Parce que l'avocat pénaliste, il est comme le médecin, justement. Le médecin qui soigne des maladies graves. Même quand il vous a sauvé, quand vous le croisez, vous lui êtes reconnaissant, mais il vous rappelle les mauvais moments de votre existence. Même les procès gagnés, il rappelle des mauvais moments de votre existence. Mais il y a des gens, je ne doute pas, et de nombre, mais beaucoup, dont je suis absolument persuadé que si j'avais la moindre difficulté, quelle qu'elle soit, ils voleraient à mon secours par gratitude et par reconnaissance. Attendez, il n'y a pas que le côté sombre des choses.
Justement, au-delà de la dureté des causes, qui sont très différentes les unes des autres, on arrive à instaurer avec un client de l'humour, de la légèreté.
Bien sûr. Pas toujours facilement, ça dépend des clients, mais bien sûr. De la légèreté, certainement. De l'humour, moi, vous voyez, ce n'était pas une valeur, mais si vous m'avez demandé la qualité que je préfère au monde, chez les autres, c'est l'humour. Je ne connais que des gens qui en sont... On n'en est jamais trop pourvu, mais très pourvu. Je déteste les gens qui sont incapables de dérision et d'autodérision. Mais, vous savez, légèreté, il en faut, parce que je pense que l'un des rôles naturels de l'avocat, c'est de prendre en charge l'angoisse de ses clients, des gens qu'il défend. Alors, la prise en charge de cette angoisse, elle ne signifie pas que les gens que vous défendez en sont déchargés complètement, malheureusement. Mais il faut qu'ils sentent ça. Ce qui fait d'ailleurs que moi, maintenant, ça fait 40 ans que je suis avocat, je vous garantis qu'il m'est arrivé de traverser des périodes pas terribles, dans mon existence, où j'avais pas un moral d'acier, ben, vous plaidez pas moins bien, vous n'êtes pas moins bon à l'audience, vous travaillez pas moins bien les dossiers, mais vous n'êtes plus là, pas là pour prendre en charge l'angoisse des clients. Et il y a toute une part de votre métier que vous n'êtes plus à même d'exercer. Il faut être très très bien dans ses pompes, hein. Ce qui veut pas dire ne pas être totalement névrosé, absolument pas équilibré, mais il faut être très 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 bien dans ses pompes pour pouvoir faire ce métier, hein. Parce que il faut pas penser à soi. Si vous pensez à vous, vous êtes incapable de défendre les gens. Et d'ailleurs, ce qui caractérise la part des avocats pénalistes, et c'est une des raisons pour lesquelles je les adore, c'est que j'en connais pratiquement aucun qui ait consacré 10 minutes de son temps à s'occuper de ses propres affaires. Les plus grands sont morts dans la misère, les plus grands. Et c'est pas des gens qui s'occupent d'eux. J'avais un ami qui m'expliquait qu'il était mal, qu'il était allé voir une psy. Au bout de 3 séances, il avait compris qu'il était du mauvais côté du bureau. Mais c'est vrai, c'est un métier, c'est un métier génial, parce qu'en plus, faut bien être franc, on adore ça, et c'est gratifiant sur un plan personnel. Ça n'est pas que de la générosité, je ne veux pas vous faire une description angélique ou trop manichéenne du métier. Il y a aussi une énorme part de gratification dans ce rôle-là. Mais si vous êtes à l'ouest, si vous êtes malheureux, si vous êtes déprimé, si vous avez, je ne sais pas, un chagrin d'amour, un problème familial, si vous êtes débordé par des problèmes matériels, c'est dur, hein ?
C'est ce qui vous passionne toujours aujourd'hui, la part humaine du métier ?
Ah oui. Bah oui. Je dirais plus que jamais. Parce que pendant très longtemps, et je suis passionné par les procès, par tout l'aspect technique et l'aspect oral du métier. Mais si vous voulez, si mon métier, ça devait être d'aller plaider, comme on le faisait dans ma conférence du stage à Versailles, des dossiers fictifs ou des dossiers qui ont déjà été plaidés, je me lèverais pas le matin. Bien sûr que non.
Est-ce que vous aimez toujours autant plaider ?
Malheureusement, oui, c'est une drogue.
Et quel est votre style ?
Je suis incapable de vous le dire. Chose que je peux vous dire, c'est que j'ai aussi naturel que possible. Je ne m'impose aucune règle, je déteste les formules, je suis pas un bon client pour les journalistes, j'écris pas de phrases. Je crois à la vérité du moment. J'ai eu beaucoup d'admiration dans mon métier, hein. Beaucoup d'avocats que j'admire, et beaucoup d'avocats de ma génération que je respecte infiniment, et que j'admire aussi, qui sont d'ailleurs mes amis. On choisit souvent ses amis sans hasard. Et qui sont ceux que j'ai cités, Thierry Herzog, Pierre Haïk. Maintenant, toute une série d'avocats que j'ai adorés. Celui qu'avec le temps je sais pas, c'est très banal ce que je vais vous dire. Celui qu'avec le temps je trouve plus formidable avocat, peut-être c'est Henri Leclerc. Parce que j'ai compris grâce à lui quelque chose. Je faisais pas partie des fans immédiats d'Henri. Parce que moi, j'aimais, quand j'étais très jeune, l'éloquence, très spectaculaire, etc. Et j'ai compris grâce à lui une chose. C'est qu'à la fin d'une plaidoirie, vous avez deux types de, de très bons avocats. On peut dire de grands avocats, on dit comme ça. Il y a l'avocat dont vous vous dites « Oh là là, oh, qu'est-ce qu'il est balèze, qu'est-ce qu'elle est balèze, quel numéro !» Et puis il y a l'avocat dont vous vous dites « Mais enfin, évidemment, il a raison. » Et le grand avocat, c'est le deuxième.
Vous connaissez des succès, vous connaissez forcément des échecs. Comment les vivez-vous? Est-ce que vous devez faire face à la culpabilité, au regret, voire au remords?
Aux trois.
Quand vous perdez une affaire?
Très très mal. Vraiment très très mal. C'est horrible. Alors il faut là aussi ne pas livrer une vision mythifiée du métier. Perdre une affaire, c'est pas forcément éviter la condamnation. Ne pas éviter la condamnation, pardon. Dans chaque affaire, on détermine de manière plus ou moins précise un enjeu. Il y a des affaires où l'enjeu est énorme, des affaires où l'enjeu est faible, c'est-à-dire la marge, l'aléa judiciaire, qui est toujours grand. Mais bon. Ben moi, quand je perds, d'abord, je pense jamais que j'y suis pour rien. Jamais. Et je le vis très mal. Et très très mal. Hein. Mais même arrivé de le vivre avec une petite tendance à l'autodestruction. Pas le suicide, hein, je vous rassure, ça me... mais non, très mal. Et je vais vous dire une chose, et je pense en plus, j'ai une anecdote que j'ai vécue un jour, un avocat que je respectais beaucoup, jusqu'à ce moment-là, qui venait de se prendre, mais un résultat absolument catastrophique. Et je plaidais avec lui le lendemain et je lui dis, t'es beaucoup plus vieux que moi. Je lui dis, ça doit être dur quand même. Et il me dit, ouais, c'est très dur, mais tu sais, on pouvait pas mieux faire. Alors là, je suis tombé de l'armoire, c'était une des vestes les plus inimaginables qu'on puisse prendre dans une affaire. Et je me suis dit la chose suivante, il a beaucoup de chance, mais ses clients beaucoup moins.
À demain, Hervé Thémime.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Hervé Thémime. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Jean-Marie Porcher, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.